RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Grand reportage, aujourd'hui à Madagascar, la grande île de l'océan Indien, auprès des démunis qui se battent pour un travail décent, pour retrouver une dignité, de l'autonomie. Madagascar est considéré en effet comme l'un des pays les plus pauvres du monde. 92% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc avec moins de 2 dollars par jour. Et c'est dans la capitale, Antananarivo, que le taux de pauvreté est le plus élevé. 7 personnes sur 10 subissent la misère au quotidien. L'ONG française ATD Quart Monde est implantée là-bas à Madagascar depuis 1989 pour soutenir ces victimes de la pauvreté. Elle a lancé en 2007 le projet artisanal MMM pour combattre la honte, la peur et les étiquettes par le travail et le partage des savoirs. Antananarivo, à la recherche d'une dignité dans les bas quartiers. Grand reportage, signé Sarah Teto.
Les filles, faites en sorte que ce soit régulier. Prenez bien soin des bords. Une fois qu'ils sont finis, vous les joignez ensemble.
En haut de la colline d'Anjanoumen, derrière un grand portail blanc, un petit havre de paix. Dans un garage ouvert, sur une cour intérieure, une vingtaine de femmes, à l'âge indéfinissable, s'appliquent sur leur ouvrage. Chapeaux, porte-monnaie, pochettes. Depuis 3 mois, elles suivent une formation de crochet en raffia. Elles, ce sont les bénéficiaires du projet MMM. MMM pour Mia Samyara Chamyanaka, littéralement travailler et apprendre ensemble. Tous les après-midi, 5 fois par semaine, elles se retrouvent à l'atelier pour améliorer leur technique avant de se lancer dans la réalisation des commandes d'accessoires passées auprès d'ATD Quart Monde. Subventionnées quand elles sont en formation, payées à la pièce quand elles sont en production, ces artisanes sont rémunérées au SMIC malgache.
Le projet MMM, c'est de donner des formations aux personnes très très pauvres pour qu'elles puissent avoir du travail décent. Donc ils font de la couture, de la broderie, de la vannerie.
Amélie Radznarisson est volontaire permanente du mouvement ATD Quart Monde. Depuis 20 ans, elle officie aux côtés des plus démunis. Elle est l'une des fondatrices du projet MMM à Madagascar.
Évidemment, il y a beaucoup d'associations qui font ce type d'activité. Mais ce qui nous différencie, c'est que nous, on va aller chercher vraiment des personnes très très pauvres et pauvres parmi les pauvres. La deuxième, c'est que même si ces personnes-là ne peuvent pas venir au travail, donc nous allons chez eux pour essayer de comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas venir, pour chercher des solutions ensemble.
Nous sommes dans le quartier de Trois-Jets-en-Gare, l'un des nombreux bidonvilles de la capitale malgache. Dans l'une des ruelles principales, coincée entre 2 cases en bois et des égouts à ciel ouvert, une petite épicerie qui fait gargote le midi. À travers un grillage, les clients interpellent la propriétaire des lieux pour commander leur repas.
Du jus, s'il vous plaît.
Le jus, c'est 100 ariars. Fanta au bonbon anglais.
Wangra Mianjavul, 43 ans, est une femme battante. Son épicerie, c'est le symbole d'une revanche gagnée sur des années de misère tenace et insidieuse. Une misère qu'elle souhaite raconter, sans phare et sans détour, au calme, dans son salon coquet, à l'arrière de sa boutique. Aujourd'hui, son témoignage prime sur son gagne-pain. Il est 11h, heure de pointe dans le bidonville. Tant pis, Wang baisse le rideau de son épicerie.
Je suis née à Tana, ma mère est morte quand j'avais 2 ans. À partir de ce moment-là, moi et mes frères et sœurs, on a été élevés par des membres de la famille. Ma tâche à moi, c'était de nourrir les porcs. Et après ça seulement, j'avais le droit de manger. Mais parfois, j'avais trop faim, alors je mangeais la nourriture des cochons. Puis moi, je me suis mariée en 1991 et on s'est installé ici, à Trois-Jets-en-Gare. En 1992, j'ai eu mon fils aîné. Mon mari ne travaillait pas, il pêchait simplement des petits poissons dans les égouts. Moi, je vendais des fagots de bois et des légumes abîmés que je récupérais au grand marché pour les revendre ensuite dans le quartier. Puis, mon fils est tombé gravement malade. Il avait la rougeole. Je l'ai emmené chez le médecin. On ne m'a pas reçu. Toutes les personnes derrière moi étaient auscultées, sauf nous. On nous a écartés parce qu'on était habillés en guenilles. Et je n'y suis plus retournée. J'ai fait de l'automédication à la maison. Un jour, une certaine docteur Chantal est passée dans le quartier. Je lui ai montré mon fils et elle a accepté de me soigner.
À Madagascar, un tiers de la population n'a jamais consulté de médecin de sa vie, faute d'argent. Cette docteure Chantal, c'était une volontaire d'ATD Quart-Monde. Pour Wang, c'est le premier contact avec le mouvement de lutte contre la misère.
La fois où on m'a refusé à l'hôpital, ça ne m'a pas choquée. Je pensais que toutes les personnes pauvres étaient traitées comme ça. Le déclic, je l'ai eu en devenant membre d'ATD. À partir de là, ma priorité, ça a été de lutter contre ma pauvreté. Je faisais beaucoup d'efforts pour mieux me vêtir, pour être présentable devant les autres. En intégrant ATD, c'est ma mentalité qui a changé en premier. Avant, j'étais timide. Je n'osais pas parler aux gens. Puis j'ai changé radicalement. Je me suis ouverte aux autres, surtout auprès des plus pauvres. Je n'espérais pas qu'ATD me donne de l'argent. J'espérais juste qu'on me donne les armes pour surmonter mes peurs, que j'ose enfin entrer dans les bureaux administratifs, aller chez le médecin. Aux réunions des membres, j'ai appris beaucoup sur les droits de l'homme, sur les droits des enfants. Il y avait des débats sur comment gagner sa vie sans attendre qu'on t'assiste toujours. J'ai appris à oser entreprendre. Je dirais que je suis devenue une personne qui ose. J'ai osé emprunter à la banque, j'ai ouvert mon épicerie, je l'ai élargie, j'ai osé épargner. Avant, je ne savais rien faire. C'est à MMM que j'ai tout appris. La broderie, la vannerie, le tissage, la gestion de l'argent, un peu de français. J'ai fait 7 formations en 9 ans. C'est grâce à ça que j'ai pu prendre mon envol.
Apprendre à oser, retrouver une conscience de soi et une confiance en soi. Le père Wresinski, fondateur du mouvement ATD, disait que la misère commence là où sévit la honte. À MMM, la lutte contre la honte est donc devenue une bataille du quotidien. Dans la capitale Antananarivo, 7 personnes sur 10 vivent dans un bidonville. Amélie, la volontaire permanente d'ATD Quart-Monde, effectue sa tournée quotidienne.
On va aller voir Myriam, qui est une artisane à MMM. Comme elle n'est pas venue hier au travail, on va aller le chercher.
Vous allez tout le temps voir comme ça les bénéficiaires qui ne viennent pas au travail ?
Oui,
oui, oui. Et là, quand par exemple Madame Myriam, elle ne vient pas au travail, elle vous donne des raisons de pourquoi elle ne vient pas ? Est-ce que vous lui demandez ? Il faut qu'elle justifie ?
Quand on vient, on ne demande même pas. Elle sait pourquoi on est là, même sans demander. Ben, elle dit, ah, hier, je n'étais pas là parce que pour une telle raison. Souvent, c'est pour les problèmes de santé. Parfois, les vêtements étaient trop sales qu'il n'y a pas de rechange. Il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, c'est ça, MMM. On ne laisse jamais les personnes de côté. Même si ils ne viennent pas au travail, eh bien, on vient toujours vers eux.
Bonjour Myriam. C'était comment hier, Madame Myriam ? Tu n'es pas venue au travail, il me semble. Non, je n'y suis pas allée. J'avais mal aux dents. J'étais fatiguée à force d'avoir fait du crochet. Tu peux reprendre le travail aujourd'hui ? Oui, je peux. Alors nous allons partir ensemble à l'atelier.
Silhouette frêle et voûtée, le pas mal assuré, des béquilles vertes dans le prolongement des bras, Myriam Raswarimang, 42 ans et 3 enfants, s'éloigne dans les ruelles d'Ankazumang, un autre bidonville de la capitale. Elle veut prendre de l'avance, avoir les idées claires. Dans une salle de l'association, Myriam s'assoit sur une chaise. Malgré un bob rouge qui lui masque une partie du visage, son regard est fuyant, usée aussi par une vie qui ne lui a rien épargné. Aujourd'hui, pour la première fois, elle a accepté de parler d'elle, de se livrer. MMM l'a sauvée, plusieurs fois même, elle veut en témoigner.
Il y a plus de 10 ans, j'ai eu une maladie grave. On a dû m'amputer la jambe gauche. Avant d'être malade, j'étais lessiveuse, porteuse d'eau et de briques. J'enchaînais les petits boulots juste pour survivre. J'étais en difficulté, je n'étais aidée par personne. C'est pour ça que mes 2 aînés n'ont pas pu aller à l'école. À l'hôpital, c'est l'association ATD qui m'a soignée. J'étais allongée quand une volontaire d'ATD est passée rendre visite à mon voisin de chambre. Elle m'a demandé ce que j'avais. J'ai répondu que j'étais malade, mais que je n'avais pas de famille pour s'occuper de moi. Elle m'a réconfortée, elle m'a dit « sois forte » et elle m'a promis de venir revenir me voir. J'étais très inquiète, je croyais que j'allais mourir. Mais heureusement, la volontaire m'a porté secours. Pour moi, MMM, ça a été une bénédiction et beaucoup de joie. Avant, j'étais une ignorante.
Myriam fait partie des bénéficiaires issus de l'extrême pauvreté, celle qui ravage et traumatise.
Ce qui différencie les pauvres parmi les pauvres, c'est que ces personnes sont à l'écart un peu de tout. Marginalisées, elles vivent dans la peur. Ils ont peur d'aller au bureau, ils ont honte de leur situation, parce que tellement la société, ils ont un regard qui est négatif.
Je n'avais pas de connaissances, je ne savais rien faire, et c'est en adhérant à MMM que j'ai commencé à être formée en artisanat.
Pour Myriam, MMM, ça a été plus que l'apprentissage d'un métier.
J'ai eu beaucoup de difficultés. À chaque saison des pluies, les toilettes publiques se déversaient dans ma maison. Ça me causait des maladies. L'association a trouvé des volontaires pour m'aider à réparer ma maison. C'est grâce à MMM que j'ai pu obtenir pour la première fois mes papiers d'identité. Avant, j'avais peur d'entrer dans les bureaux, d'être expulsée à cause de mon apparence de pauvre. C'est ici que j'ai appris à remplir les documents. C'est aussi grâce à l'association que j'ai pu obtenir un acte de naissance pour mon dernier et que j'ai pu le scolariser. Avant, tout mon temps était consacré à trouver de l'argent pour survivre. J'ai aussi eu deux fois la tuberculose. Ce sont les volontaires qui m'ont accompagnée pour me faire soigner. C'est aussi eux qui m'ont offert une prothèse de jambe. C'est formidable. Dans cette association, tu n'es jamais abandonnée. J'ai toujours été soutenue dans les meilleurs et les pires moments.
À 40 ans, Marianne Razafin Jafar fait partie des anciennes. Elle travaille à MMM depuis le début de l'aventure. Comme Vuang, c'est Tatédé qui est venu la trouver, et comme Vuang encore, la rencontre a eu lieu après un choc que cette mère de 5 enfants souhaite raconter. Nous la retrouvons chez elle, dans le quartier de MMM. Sa maison n'est pas grande, à peine plus de 8 mètres carrés. Assise sur son lit, le visage sombre et les traits tirés, Marianne commence son récit.
Je n'ai pas eu une enfance heureuse, j'ai beaucoup souffert. Puis à l'âge de 18 ans, je me suis mariée à Hansi Rabé. C'était dur parce que nous n'avions d'autres sources de revenus que celles du travail journalier dans les champs. C'était pas suffisant pour nourrir 5 enfants. Donc nous avons déménagé à Tana. Une fois à Tana, j'ai fait lavandière, porteuse d'eau, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Un jour, j'ai été accusée de vol de vêtements par ma patronne. Elle m'a amenée devant le chef du quartier. Je ne savais ni lire ni écrire, mais on m'a quand même fait signer un papier que je ne comprenais pas, sur lequel j'avouais le vol. Je me suis sentie humiliée d'être accusée à tort. Quand tu es pauvre, sans éducation, c'est facile pour les gens de t'accuser. Puis j'ai connu MMM. Une des responsables faisait une descente dans le quartier. Elle a dit qu'ils organisaient une formation et qu'on était les bienvenus. Moi, j'ai dit que j'étais analphabète et que je n'y connaissais rien en artisanat, donc c'était pas pour moi. Elle a répondu qu'au contraire, c'était pour des personnes comme nous. Alors je me suis inscrite et j'ai commencé à travailler là-bas. Vraiment, ce qui m'a plu, c'est la relation avec les formateurs, parce qu'ils nous ont appris des choses, ils nous ont soutenus, accompagnés.
Bonjour, bonjour tout le monde, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que vous faites là? Du crochet?
Oui.
Racia naturelle.
Manich Ranjanathwanj est tisserand de profession. Comme tous les formateurs d'MMM, Manich a été recruté sur ses compétences professionnelles et sur ses qualités humaines également. Être patient, savoir écouter, ne pas juger. S'il avait l'habitude d'être au contact de personnes défavorisées, il a néanmoins été marqué par ses élèves.
En fait, ici, on se parle. Hein. Ici, c'est pas à l'école. Donc, quand il raconte, il touche le cœur. Voilà, voilà le... ce que j'aimerais dire.
Vous êtes ému par ces dames?
Oui, ça m'a beaucoup ému et ça m'a entraîné de donner un peu plus L'échange m'importe beaucoup plus parce que, oui, en tant qu'être humain, et quand on voit, quand on sent leur cas, ça m'intéresse beaucoup. Former, c'est partager, et partager, c'est mon métier. Ça m'a fait grandir, donc je suis à la fois formateur et bénéficiaire.
À l'instar d'Amélie ou de Zoé, Manich et les autres formateurs sont au premier rang pour observer la lente mais irrémédiable transformation de leurs protégés.
Le changement que je vois, c'est qu'au début, tout le monde ne fait que penser pour soi. Mais au fur et à mesure où les choses avancent, à la fin, ils ont le sens du partage, un changement de mentalité.
Ce changement de mentalité, Marianne et sa famille l'ont vécu comme une renaissance.
Auparavant, j'étais renfermée. J'avais honte de m'exprimer devant les autres parce qu'en tant qu'illettrée, c'est comme si tout ce que tu disais n'avait aucun sens. Maintenant, c'est différent. J'ose prendre la parole. Mes enfants sont fiers de mes efforts, d'avoir une maman qui sait à présent lire et écrire et qui n'est plus méprisée par les autres.
Ça veut dire que le regard des gens a changé.
Oui, maintenant quand on me voit, c'est plus comme avant, on ne me rejette plus. Les gens regrettent de m'avoir maltraitée et désormais ils m'invitent chez eux. Avant, je travaillais pour survivre, mais depuis que je travaille à MMM, je peux économiser. Je suis très heureuse parce que mes enfants ont pu être scolarisés. Grâce à mon salaire, on a pu aussi acheter une rizière et construire un tombeau.
Une vraie ascension sociale. Mais cette reconstruction, comme l'explique Amélie Radzonarisson, ce cheminement pour se réapproprier sa dignité humaine a un coût. Un coût que peu d'associations peuvent aujourd'hui assumer.
Vous savez, la misère n'est pas que question financière. Quand on a vécu pendant des années et des années dans la misère, eh bien ça ravage l'intérieur. Et pour avoir une confiance en soi, pour trouver de la force pour se mettre au travail, eh bien il faut du temps. Et le temps, on l'a ici à MMM et on l'apprend aussi. Par exemple, Marianne, ça fait 7 ans qu'elle est là. Il y a 2 ans, elle a essayé de trouver du travail ailleurs, mais elle n'est pas arrivée, elle n'a pas trouvé sa place là-bas. Et elle est revenue chez nous, et voilà, elle est encore là aujourd'hui, et on l'a accueillie, et on ne ferme pas la porte. Au contraire, on n'abandonne pas les gens.
Cette politique de non-abandon est l'un des piliers de l'association. Autonomiser au maximum ces femmes sans créer de l'assistanat, ne rien faire pour elles, mais avec elles, les accompagner vers un projet à long terme tout en leur laissant toujours la possibilité de revenir en cas d'échec, voilà le credo des MMM.
Moi j'ai beaucoup appris grâce aux autres, aux échanges de savoir-faire. Les savoirs que j'ai acquis, je les ai reçus gratuitement, alors j'avais aussi envie de les redistribuer gratuitement. J'étais très pauvre, mais ma situation est stable désormais. Mais alors, c'est moi qui donne aux autres qui en ont besoin. Vous voyez, je suis l'exemple. C'est possible de sortir de la pauvreté.
Le parcours de Wang reste encore atypique. Il lui aura fallu 30 ans de bataille, dont 9 aux côtés des MMM, pour se hisser hors de la misère. Pour beaucoup, elle est l'exemple à suivre. Seulement voilà, selon Amélie, pour vaincre cette pauvreté sans cesse croissante à Madagascar, tout le monde a un rôle à jouer.
C'est une philosophie. J'appellerais ça les changements du regard. Parce que ça, ce n'est pas qu'au niveau des artisans qu'il faut faire ça. Il faut que chaque citoyen arrive à ce changement de regard, ce changement de mentalité par rapport aux personnes très pauvres. Parce que souvent, on est encore loin de ça. On est encore dans le jugement où les gens, ils sont feignants, les très pauvres, ils ne veulent pas travailler. Non! C'est que moi, je vois chaque jour, depuis bientôt 20 ans que je suis volontaire, je vois des mamans, des papas qui partent le matin sans savoir où aller pour trouver de quoi assurer sa vie d'aujourd'hui. Alors, il faut vraiment du courage pour sortir de son lit, aller chercher des briques à transporter, des seaux d'eau, taper sur la porte des foyers plus aisés pour voir s'il n'y a pas de vêtements à laver. Et ils font ça. Ça, c'est du courage. C'est pas autre chose.
Antananarivo, à la recherche d'une dignité dans les bas quartiers. Un reportage de Sarah Teto, réalisation Sandrine Straram.